17h-17h30, votre mag du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, plantez le décor en Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le Mac du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui, et comme hier soir, et pendant 15 jours, au festival Lettres d'automne. Et donc on a le privilège, tous les soirs, grâce à l'équipe de Confluence, à Maurice Petit et Agnès Gros, et tous ceux qui œuvrent pour que ce festival littéraire puisse vivre à Montauban et en Tarn-et-Garonne pendant 15 jours, on a le privilège donc de recevoir des auteurs. Aujourd'hui, c'est Karl Norak qu'on reçoit, poète, auteur jeunesse, bonjour. Merci d'être là.
Plaisir.
Juste avant, d'ailleurs, d'aller à la Maison du Crieur, tout à l'heure, pour déjà une première intervention qui s'intitule « Noir quart d'heure », du titre d'un ouvrage pour enfants qui raconte, c'est une sorte de chose à tiroir, parce qu'en fait ça raconte qu'on raconte une histoire.
Voilà, exactement.
Après avoir éteint la lumière, après avoir soufflé la bougie. On va y venir. On parlera aussi de ce concert lecture autour d'Éric Satie.
Et oui.
Et puis, si vous voulez bien, pour commencer, on va parler tout simplement de vous. Au départ, vous êtes belge, même si aujourd'hui vous vivez en France.
À l'arrivée aussi, toujours.
Donc, Karl Norak, vous êtes écrivain de père en fils dans la famille.
Oui, d'ailleurs, ouais. Comme sur les bouteilles de bière, dans ma biographie, je mets écrivain de père en fils depuis 1934, c'est-à-dire la naissance de mon père. Et mon père, lui, vient du milieu des mineurs en question, mais il avait cette petit papillon dans la tête, en quelque sorte, qui l'amenait vers la poésie, à sortir, avoir le privilège de sortir un petit peu de son milieu social pour écrire des livres. D'ailleurs, aujourd'hui, il a 82 ans, et sous le nom de Pierre Coran, il a déjà écrit 120 livres, et il en a publié 4 cette année, comme quoi l'imagination est quelque chose qui perdure dans la vie. Et moi, j'ai vécu mon enfance dans une forêt, entre mon père, dont j'observais le geste d'écrire. D'ailleurs, quand j'étais en maternelle, je me prétendais déjà écrivain, sauf que j'avais pas appris l'alphabet. Donc j'étais vaguement écrivain parce que je traçais des vagues, en fait. Hein. Mais j'avais déjà le goût du geste d'écrire. Et ma mère, qui était institutrice, en même temps, elle était comédienne. Donc, d'un côté, j'entendais maman répéter ses textes et il y avait le crissement du stylo de l'autre côté. Donc moi, entre les deux, en quelque sorte, j'ai été dirigé vers l'écriture, c'était assez naturel.
Et vos parents, ils étaient dans la transmission ou pas du tout? Ça s'est fait par votre propre curiosité?
Ah, ben ils étaient dans la transmission. D'ailleurs, ma mère me faisait des noirs quarts d'heure, donc des histoires dans le noir. Mon père, lui, il était déjà enseignant la journée, donc le soir, il écrivait. Mais moi, j'adorais l'observer. D'ailleurs, je l'embêtais parce que je lui disais: papa, t'es écrivain, donc raconte-moi une histoire. C'est quand même évident d'avoir un papa écrivain qui vous raconte une histoire. Et il me disait, laisse-moi écrire. Alors je lui disais, papa, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas raconté une histoire. Et donc on avait qu'on appelle un running gag ensemble, c'est que il me disait, assieds-toi, je te raconte une histoire, mais après tu promets de t'en aller pour un bon moment. Et du coup, il m'inventait chaque fois une histoire qui durait environ 10 secondes. Du genre, c'est l'histoire d'un petit toutou, quand c'est fini, c'est tout, voilà, t'as eu ton histoire, maintenant tu te barres. Hein, et donc, moi, c'était évidemment, il y avait un mélange de frustration, mais surtout d'humour, parce qu'évidemment, ça me faisait rire.
Alors donc, oui, bercé aux histoires dès l'enfance, hein, avec ce fameux noir quart d'heure, qui est une tradition des mineurs en Belgique et dans le nord de la France.
En réalité, c'est surtout autour de la ville de Mons, donc ma ville natale. C'est vrai que dans les familles, et moi ça vient de mon arrière-arrière-grand-mère, mais c'était un peu dans toutes les familles, de temps en temps, l'enfant disait souvent à la maman plus qu'au papa, est-ce que t'as le temps pour un noir quart d'heure? Déjà, j'aime bien cette expression. T'as le temps d'un noir quart d'heure pour moi? Tu peux m'offrir un noir quart d'heure? Si la maman disait oui, ça voulait dire que soit dans la pièce de vie, soit dans la chambre au moment du coucher, on éteignait tout. À l'époque, il y avait le poêle de charbon qui rougeoyait encore. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, à Mons, il y a un monsieur assez âgé, il m'a dit « Merci de remettre ça à la mode ». Il me dit « Moi, mon souvenir, c'est que ma grand-mère, dans le noir, elle m'a raconté des histoires horribles qui faisaient peur. Et en plus, elle allait voir si le charbon rougeoyait toujours. Alors, quand elle ouvrait le poêle, là, non seulement son histoire faisait peur, mais je voyais son visage s'illuminer. Hein, et symboliquement, c'était quand même assez étrange. C'est que, par exemple, ma grand-mère n'avait pas appris à lire, mais elle me racontait quand même des histoires. Et le noir permet une intimité différente. Et en plus, moi, ça n'a pas été mon destin, mais autrefois, les enfants, garçons, étaient condamnés à descendre sous la terre comme leur père. Et finalement, l'histoire les habituait au noir aussi, ouais, hein, parce que ils étaient entre ombre et lumière tout le temps, quoi.
Et c'était aussi une façon d'apprivoiser la peur du noir des enfants, peut-être.
Voilà, et transmettre aussi, transmettre, si pas par les livres, transmettre les histoires de famille et les histoires intérieures, presque.
Et alors, justement, alors, il y a une ambiguïté, un problème avec votre noir quart d'heure à vous, puisque c'est un livre.
Oui.
C'est un livre avec que vous avez fait avec une illustratrice à l'école des loisirs.
Des loisirs, oui, oui.
Et du coup, on peut pas le lire dans le noir. Ça ne marche pas, hein.
Oui, d'ailleurs, dans une heure, c'est ce problème que je vais avoir, hein. Ça va pas être d'ailleurs la maison du crieur, ça va être la maison du chuchoteur, parce qu'on va faire ça tout doucement. Alors, je suis accompagné par Marco Bénard, un conteur.
Qu'on connaît bien ici, puisqu'il anime une
émission
sur CFM.
Oui, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il
m'a
dit qu'il est, justement, il récoltait des histoires pour venir les raconter chez vous. Mais ces histoires, elles n'étaient pas forcément dans le noir absolu. Il y avait souvent le petit rituel de la bougie. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je vais avoir la lueur pour lire mon histoire que je ne connais pas par cœur, vraiment. Et le livre, il est mélangé de ce qu'on m'a dit à travers ma grand-mère, puisque là, c'est vraiment le papa mineur, et aussi de ce que je vivais avec ma mère. Parce qu'un noir quart d'heure, c'est pas seulement une maman qui dit « écoute-moi pendant un quart d'heure, c'est moi qui raconte », il y a un échange. Hein. Et moi, comme je rêvais déjà d'être conteur et écrivain moi-même, maman commençait une histoire dans le noir, et puis moi, évidemment, j'apportais mes petites étincelles, et dire « moi aussi, je raconte », ce qui est le cas dans mon livre.
Vous avez raconté des noirs quarts d'heure, vous avez fait passer des noirs quarts d'heure à vos enfants ?
Oui, à ma fille, et ma mère était plus douée que moi parce qu'elle est comédienne, et je me suis dit que ça pouvait vraiment franchir les générations parce que même ma fille, à l'aube de l'adolescence, hein, donc vers 13 ans, au moment où on dit tout ce qui vient de l'enfance, basta. De temps en temps, en particulier quand ma mère vient, elle lui dit « t'as pas un noir quart d'heure pour moi ?» Et donc, je vois que cette magie-là, elle, c'est quelque chose d'assez universel, au fond, de pouvoir essayer de communiquer par la voix et pas seulement par le regard.
Alors, si vous nous écoutez le soir, là, on est en direct, en compagnie de Karl Norak, depuis nos studios de CFM à Montauban. Le noir quart d'heure que Karl Norak proposera avec Marco Bénard, ce sera donc tout à l'heure, là, à 18h, au centre-ville de Montauban, à la Maison du Crieur. Je ne peux que vous inciter à y aller. Si vous nous écoutez quelque part entre midi et midi 30, alors, c'est que déjà, nous sommes mercredi et que vous écoutez la rediffusion de cette émission. Auquel cas, vous retrouverez Karl Norak pour un concert littéraire. Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête, à 18h30 à l'espace des Augustins. Un petit peu de pub et puis on en parle.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Le grand rendez-vous annuel du Salon des vins et produits régionaux de Moissac, organisé par les amis de l'île au Caillavé, c'est au Hall de Paris les 21 et 22 novembre. Préparez vos papilles, venez déguster les fabuleux vins et produits de nos régions. Toute la journée, des animations et de nombreux lots offerts par les producteurs sont à gagner. Le 16e Salon des vins et produits régionaux de Moissac, ambiance garantie les 21 et 22 novembre, entrée gratuite de 9h à 19h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Du 16 au 29 novembre, le festival Lettres d'automne fête ses 25 ans par une édition anniversaire exceptionnelle. À Montauban, Moissac, La Française, Molière ou Montricou, des rencontres, spectacles, concerts, lectures, cinéma autour de l'œuvre d'Agnès de Sarthe. Des écrivains, comédiens, musiciens ayant participé à Lettres d'automne depuis sa création seront là. Nathalie Dessay, Laurent Naouri, Fanny Cotenson et bien d'autres réunis autour d'Agnès de Sarthe. Assistez à des spectacles, concerts et rencontres en famille et profitez des petits déjeuners à la gare et des vitrines vivantes des commerçants. Lettres d'automne, c'est du 16 au 29 novembre.
Dimanche 22 novembre, sur l'hippodrome de Montauban, c'est la 11e édition du Cross René Arcusé. Organisé par Montauban Athlétisme, le Cross René Arcusé, un rendez-vous sportif ouvert à tous, licenciés ou non. À partir de midi le 22 novembre, passez une journée sportive, chacun à son rythme. 10 courses pour en profiter de 7 à 77 ans. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit et ça pourrait même vous faire du bien. Cross René Arcusé, dimanche 22 novembre, à partir de midi, sur l'hippodrome de Montauban. On vous attend. Ce message est offert par notre partenaire ERDF. Renseignements sur montauban.athlé.com.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Vous êtes bien sur CFM Radio. Nous sommes en compagnie de Karl Norak, poète et auteur jeunesse. Ça vous va, ça, comme définition de...
Oui, poète, j'aime bien, parce que c'est un mot très galvaudé aujourd'hui. Autrefois, ça pouvait paraître prétentieux. Aujourd'hui, on dit, quoi, c'est quoi votre métier à part ça? Et donc, de s'affirmer poète, finalement, c'est une revendication presque un peu provocatrice. Et donc, moi, j'écris à la fois pour les enfants et pour les adultes, mais moi, je ne mets pas vraiment de séparation. Et d'ailleurs, ce qui est formidable avec Confluence et ce festival d'automne ici à Montauban, c'est que c'est vraiment un festival qui ne met pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre auteur jeunesse ou pas. D'ailleurs, l'invité d'honneur écrit les deux. Il n'y a pas de barrière entre poésie et théâtre, entre le roman et le fait de le mettre sur une scène avec des musiciens. Ça, c'est la grande idée qui n'est pas si fréquente en France, qui est défendue ici depuis 25 ans.
Oui, c'est ça, c'est casser un peu les barrières, voilà, et mettre le livre sur scène, au milieu, voilà, dans toutes les mains également.
Dans la vie.
Alors, Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête, comment vous pourriez nous présenter ce concert littéraire?
Ah ben là, c'est merveilleux, c'est que, en fait, j'ai toujours aimé Eric Satie, et puis je me suis dit, c'est une musique qui peut toucher les enfants. Donc je me suis mis à l'écouter, mais plus simplement comme auditeur, pour me dire, qu'est-ce que je peux écrire là-dessus? Sauf que chaque fois que je l'écoutais, je me dis, ah c'est beau, hein. ah c'est beau. Alors, un livre qui s'appelle Ah c'est beau, ça va pas. Alors je me suis intéressé au côté excentrique du personnage, qui d'ailleurs, quand il arrivait dans un lieu public, parlait pas aux gens, mais s'adressait à la chaise pour voir la tête des gens. Et puis qui disait, par contre je dois vous laisser parce que j'ai oublié mon parapluie, il doit extrêmement s'inquiéter. Donc il était surréaliste dans sa musique, surréaliste dans sa vie. Et donc moi j'ai commencé à écrire autour de ça, à partir du personnage qui est à la fois vrai. Par exemple, ça fait rire les enfants parce que je le mets en position, et il en a marre que son facteur lui apporte pas du courrier. Donc il s'envoie des lettres qui timbrent et qui s'envoient vraiment par la poste. Il le faisait vraiment. Donc évidemment je mets ça en scène, mais ça part d'un personnage qui est réel. Et mon éditeur a publié ça en se disant, bon, on espère qu'on trouvera un public. Alors c'est vrai que sur le CD, c'est François Morel qui défend mon texte, donc j'ai eu de la chance. Une super illustratrice qui s'appelle Elodie Nguyen. Mais depuis que ce livre est paru, il a beaucoup de succès. Et au fond, c'était la première fois qu'on parlait d'Éric Satie aux enfants. Donc j'ai cette petite fierté de me dire, tiens, j'ai ouvert cette porte-là.
Alors, vous serez accompagné d'une pianiste, Émilie Véronèse, hein, qui sera, oui, l'interprète des morceaux d'Éric Satie. Et c'est vous qui lirez, à la place de François Morel, là, pour le coup.
Voilà, alors là, on n'y gagne pas, mais bon, c'est intéressant d'entendre l'auteur, quel qu'il soit, parce qu'on a la respiration de ce qu'on écrit. Ouais. Hein, c'est ça, d'ailleurs, qui est aussi une particularité ici, parce que souvent, c'est l'auteur qui lit lui-même. Et alors, peut-être qu'il n'est pas un acteur, mais... Premièrement, il y met tout son cœur, et en plus, on sent le plaisir. Comme disait hier Agnès de Sartre, moi, avant de sortir un livre, je le dis oralement pour moi-même, pour voir. Quand vous prenez un livre, que vous le lisez vraiment à haute voix, vous voyez ce qui cloche, vous voyez ce qui sonne pas bien, et ça, c'est très intéressant. Et donc, nous, après, avec le public, avec cette pianiste, on va essayer de recréer cet univers-là.
Alors là, juste comme ça, pour se mettre un petit peu dans l'oreille, Éric Satie, je vous propose quelques mesures. Alors je sais pas qui c'est qui est au piano, hein, mais j'ai pas le nom de l'interprète.
Thank you.
une gymnopédie d'Éric Satie, d'une apparente simplicité, grande, c'est épuré, c'est simple, on croirait ça écrit par un enfant presque.
Voilà, alors il y a une fausse simplicité parce qu'il y a une profondeur. Et par exemple, ça c'est le morceau le plus lent qu'il y a aussi sur mon livre CD. Et on disait, est-ce que les enfants, ils peuvent encore rentrer dans la lenteur? Aujourd'hui, c'est dans le zapping total. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait de l'action tout le temps. Dans les dessins animés, c'est ça. Et quand on les remet dans une lenteur, heureusement, on voit que ça marche encore. Donc, ils s'apaisent. Les parents, ils me disent ça. Le soir, ils me demandent du Satie pour l'apaiser. Alors évidemment, si on écoute l'entièreté du disque, il y a des morceaux qui sont complètement trépidants, parce qu'en même temps, c'est le premier compositeur qui a écouté, qui a regardé les films muets, et donc des fois, il y a des musiques qui vont à fond la caisse, comme on dit, parce qu'elles ont le rythme finalement du film muet avec ces gens qui courent dans tous les sens.
Et vous, dans l'écriture justement de ce texte, Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête, vous l'avez écrit en écoutant cette
musique?
Ah
oui, en écoutant, parce que moi finalement, je deviens un spécialiste de l'écriture sur la musique, alors que j'ai jamais joué une note de musique. Alors bon, mon truc, c'est que j'écoute non-stop une musique jusqu'à ce qu'elle me rentre dans tous les pores de la peau presque, et que au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est presque magique. On a l'impression qu'on rentre dans la musique elle-même à travers les notes.
Et l'écriture se fait en même temps que vous écoutez, ou ça peut poser problème?
Alors l'idéal, c'est d'écrire au rythme de la musique. Donc par exemple, j'ai fait un livre qui s'appelle Swing Café. C'était des improvisations. Alors évidemment, il y avait beaucoup de déchets, alors après, il fallait rechercher. Et là, j'essaie de rentrer dans le surréalisme de la musique. Et mon petit avantage d'être belge, c'est qu'on est un peu surréaliste. D'ailleurs, la Belgique, c'est déjà surréaliste en tant que tel. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Nous, on est tombé dans le surréalisme quand on était tout petit. Et donc, d'avoir... Alors pourtant, lui, il est éminemment parisien, bon aussi Domfleur, etc. Il n'est pas du tout belge, Éric Satie, mais il a ce côté... Je me moque de moi-même, ce côté décalage qui est assez familier du Belge que je suis.
Un petit peu de musique et on revient en conversation dans un instant avec Karl Norak. On est en train de parler de ce concert littéraire qui sera donné à 18h30 à l'Espace des Augustins, mercredi, messieurs, dames. 10€ l'entrée, 6€ en tarif réduit. Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête.
If I'm still around to love, what if I'm still looking for that love, the love that keeps my blood? I can see right through you when there's nothing on the other side. I fight with these thoughts every night. If I'm a good lover after the
Vous écoutez CFM et c'était Finlay avec Electric Bones. Retour en studio avec notre invité Karl Norak.
Oui, Karl Norak, auteur de Le Noir Quart d'heure ou encore Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête et quelques 60 livres pour enfants, des recueils de poèmes, mais aussi des pièces de théâtre et quelques ouvrages pour les adultes aussi.
Oui, tout à fait.
Issu de vos voyages, de votre expérience, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. On peut pas avoir cette conversation aujourd'hui, Karl Norak, sans parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, des attentats perpétrés à Paris, qui sans doute vont se retrouver encore dans vos prochains livres, comme ils s'y sont déjà peut-être retrouvés des attentats ou les voyages que vous avez faits.
Alors tout d'abord, moi je pense que ce qui est nécessaire dans les livres, c'est de défendre certaines valeurs, mais aussi de montrer la beauté. Même la tendresse, d'opposer la beauté, la lumière à tout, à toutes ces choses très très noires. Ça, c'est une chose. Hein. Après, c'est vrai qu'au fil du temps, je me dis, moi, j'ai mes propres opinions, mes propres convictions, et je suis bien placé pour les partager. Pas du tout une opinion politique, mais essayer de décrypter des événements, de défendre l'idée de tolérance. Moi, par exemple. De mes voyages, j'ai pris beaucoup de héros qui sont vraiment de cultures, de couleurs différentes. Et je me dis déjà, un enfant ici, blanc, par exemple, qui va tellement aimer mon livre, qui va rentrer dans la peau de l'Africain pendant toute l'histoire et se dire « je voudrais être lui pour vivre ça », c'est déjà un acte antiraciste quelque part. Alors il m'est arrivé aussi de traiter parfois des sujets plus graves, notamment un roman graphique qui s'appelait « Au pays de la mémoire blanche », et qu'on est dans un monde de chiens et de chats dans une ville au milieu des attentats, et on a quelqu'un qui ne sait pas s'il est chien ou chat, parce qu'il a perdu la mémoire, il a survécu à cet attentat, on a ramassé un passeport, on lui a dit ça doit être vous. Et à partir de là, il reconstruit le monde, et il essaie même d'apporter sa pierre à l'édifice de manière non violente. Et hier, par exemple, j'étais là dans les lycées de Montauban. Ils avaient étudié la semaine dernière mon livre pour me recevoir. Il se fait qu'à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a même des détails qui pensaient de pure fiction. Puisque j'ai vu dans le journal, on a retrouvé par exemple un passeport, on savait pas si c'était un des terroristes ou une victime qui était la personne en question. C'est le départ de mon histoire. Donc parfois, malheureusement, la réalité, comme on dit, dépasse la fiction. Et du coup, hier, c'était vraiment un dialogue très, très important et intéressant parce que on a parlé de l'actualité à travers un livre qui venait justement d'étudier par hasard.
C'est important, ça, parce que quand on est auteur jeunesse, on sait que ces livres vont se retrouver dans les bibliothèques, dans les médiathèques départementales, qu'ils vont être utilisés par les professeurs des écoles, justement, en appui pédagogique à une leçon. Et vous y pensez, ça, au moment de l'écriture?
Oui, alors il y a d'autres personnes qui pensent pour moi. Par exemple, il y a pas mal d'années, quand il y a eu des attentats à Madrid, terribles, l'enseignante de ma fille m'avait dit, j'ai essayé de leur expliquer ce matin ce qui s'est passé à Madrid, j'y arrive pas, parce que souvent je prends un livre pour expliquer, mais auprès des petits, j'en ai pas trouvé. Il y en a pas et vous devez le faire. Alors je dis, merci de la mission, c'est pas évident. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le géant de la Grande Tour » qui évoquait le 11 septembre. Pour la seule fois de ma vie, j'ai été même interviewé par le journal Le Monde. J'ai eu une presse incroyable. Le livre, évidemment, s'est pas vendu. Parce qu'on va rarement dans une librairie pour dire « Qu'est-ce que vous avez pour ma fille de 4 ans sur le terrorisme ?» C'est pour un anniversaire, vous voyez.
Ouais.
Mais ce livre a le mérite d'exister. Et il existe dans les bibliothèques, et il existe dans les écoles. Et éventuellement, peut-être va-t-on le ressortir maintenant pour dire « Allez, on va raconter une fable ». Qui ne raconte pas les choses de manière crue, mais qui nous aide à réfléchir et en fait à essayer... Peut-être pas d'expliquer, parce qu'il y a une part d'inexplicable, mais en parler.
C'est une fierté d'auteur, ça, de justement de mettre sa pierre à l'édifice, de se dire qu'on contribue peut-être à la compréhension des plus jeunes pour que demain, ce soit de meilleurs adultes.
Ben, ce serait une fierté si on avait l'impression que ça avait un effet réel. Hein. Ça, c'est une goutte d'eau dans un océan de questions et d'incertitudes. Mais oui, mettre sa petite pierre à l'édifice, pour moi, c'est vraiment... Avec toute l'humilité nécessaire, c'est vraiment essentiel.
Vous écrivez en permanence des poèmes, par exemple. Là, quand vous êtes ici sur le festival Lettres d'automne à Montauban, vous avez incarné. Comment vous fonctionnez?
Oui, mais vous deveniez bien. Moi, en fait, ouais. j'écris des poèmes tous les jours. C'est une habitude que j'ai depuis l'enfance. Comme des gens vont allumer la télé au moment d'aller se coucher ou lire trois pages d'un roman, moi, je lis un poème, j'en écris un, généralement. Alors, heureusement, peut-être pour mes lecteurs, je ne publie pas tout. Au bout d'un moment, je sélectionne, mais pour moi, écrire de la poésie, c'est aussi naturel que respirer ou de faire une promenade.
Vous en avez pas un, là ?
Non, j'en ai pas un sous la main, donc
vous
voilà.
Vous n'avez pas votre carnet avec vous ?
Si, mais alors vous devez passer 5 minutes de musique et puis que j'aille le chercher dans mon sac. Parce que je ne les retiens pas par cœur. D'ailleurs, c'est très, très fugitif.
Ouais.
Vous avez une idée ? Moi, j'ai un ami, il se balade pendant 3 heures et puis il recopie le poème qu'il a imaginé pendant 3 heures. Moi, c'est vraiment... J'ai toujours, c'est une danseuse qui fait 3 tours et puis qui s'en va. Voilà.
C'est des poèmes courts ? C'est des aphorismes, des choses comme ça ou pas ?
Ah oui, alors oui, ça peut être des poèmes qui sont très très
allez,
courts.
Par exemple, un très très court que vous avez à l'esprit, parce qu'il nous reste quoi, une minute. Alors
non, je retiens pas. Non,
rien du tout.
Non, je retiens pas. Non.
C'est marrant ça, qu'un auteur comme ça ne se rappelle pas finalement ce qui passe par son esprit.
Ah non, mais en fait,
si c'est pas couché sur le papier, c'est foutu quoi.
D'ailleurs, moi, je vais rencontrer quelqu'un dans la rue. L'idée que j'avais, elle a disparu. C'est vraiment, d'ailleurs, pour dire l'écrit reste, c'est vraiment posé comme ça sur le papier. Oui.
L'auteur ne serait rien sans son stylo.
Ah non, mais c'est ça, c'est posé trace. D'ailleurs, moi, je travaille pas sur l'ordinateur, c'est sur des feuilles volantes, mais au bout d'un moment, elles arrêtent de voler, elles deviennent des livres.
Merci beaucoup, Karl Norak, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans le MAC du Tarn-et-Garonne. Je rappelle votre rendez-vous là d'ici une demi-heure à la Maison du Crieur avec Marco Bénard pour Noir Quart d'Heure. Vous serez sur place. Marco Bénard, lui, continuera d'ailleurs à donner plusieurs représentations
voilà,
de ce Noir
deux semaines,
Quart d'Heure.
Dans toutes les librairies de Montauban.
Et puis, pour ceux qui ont raté ça et qui nous écoutent, par exemple, à la rediffusion, qui ont envie de vous rencontrer, eh bien, je leur conseille d'aller mercredi soir, donc 18 novembre à 18h30, à l'Espace des Augustins, pour ce concert littéraire, où vous serez accompagné d'Émilie Véronèse, Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez CFM, il est 17h30, on se retrouve après les infos. CFM.